Ce soir, l'étude de la doctrine, on avait dit ça il y a quelque temps. Ce sera une introduction générale ce soir à ce sujet, qui tournera finalement autour de cette question, pourquoi étudier la doctrine ? Ce n'est pas inutile de se poser ce genre de questions. Il est en effet de bon ton parfois dans certains milieux, notamment dans des milieux évangéliques, de type charismatique, outrancier, ou même parfois même non charismatique, des milieux non charismatiques, mais il est de bon ton de mépriser l'étude de la doctrine au profit d'expériences. Du moment qu'on a fait des expériences avec Dieu, du moment qu'on a une vie de piété profonde, peu importe finalement que l'on soit d'aplomb ou non sur la doctrine. En fait, c'est cette attitude qui entraîne toutes les déviations et toutes les dérives que nous trouvons aujourd'hui dans le christianisme et en particulier dans le monde évangélique. Dans la tradition juive, il y avait cette idée force que un saint ne peut pas être ignorant. Et que pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu, ce qui est précisément la définition même de la sainteté, il faut les connaître. D'où justement l'importance de l'étude dans la tradition juive de la Torah, qui n'est pas une approche théologique des choses de Dieu, mais qui signifie littéralement non pas loi, comme on traduit un peu rapidement en faisant référence par exemple à la traduction grecque de ce mot, les Septante dans la version grecque de la Bible avait traduit le mot Torah par le mot nomos, la loi, mais en fait le mot Torah en hébreu signifie bien davantage l'enseignement, l'instruction. Finalement, on trouve dans de nombreux psaumes cette expression qui revient « Fais-moi, Seigneur, connaître tes voies pour que j'y marche. » D'où le nom que l'on donne aussi en hébreu pour définir l'étude de la Torah, c'est-à-dire la halakha. La halakha qui vient d'un mot qui signifie marcher, cheminer, aller. Donc, cheminer dans les voies de Dieu. Et pour cela, il faut les connaître. Et précisément, la connaissance de ces voies de Dieu, c'est une connaissance qui est double. D'une part, tout le témoignage de la Bible repose sur cette idée fondamentale que l'homme, livré à ses propres réflexions, ne pourra jamais s'élever jusqu'à la connaissance des voies de Dieu. Et pour connaître les voies de Dieu, il faut que Dieu lui-même les révèle. Et la Torah, précisément, c'est la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. Et l'homme reçoit cette révélation dans l'émerveillement dans la reconnaissance que Dieu condescende à s'abaisser jusqu'à lui, homme pécheur, pour se révéler et lui faire connaître ses voies. Maintenant, à partir de ce donné révélé, ce n'est pas parce que l'homme a reçu cette révélation qu'il n'a plus rien à faire. Mais il doit, à partir de ce donné révélé, entreprendre toute une démarche de méditation. Et nous trouvons cela aussi dans le livre des psaumes, notamment dans le psaume premier. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Par conséquent, à partir de ce que le Seigneur a révélé de lui-même, il y a un effort de réflexion qui s'adresse à l'intelligence de l'homme. Et nous pourrions aussi faire référence au premier et au grand commandement où le Seigneur déclare à Israël, et vous savez que Jésus reprend ce commandement pour résumer la loi et les prophètes, c'est-à-dire la révélation de l'Ancien Testament, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aussi, et c'est Jésus qui l'ajoute, de toute ta pensée. » De tout ton cœur, ça s'adresse aux sentiments. De toute ton âme, c'est de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Par conséquent, l'homme doit faire un effort pour avoir l'intelligence des choses de Dieu, s'il l'aime vraiment. Et ce sera pour lui aussi une manière de lui témoigner son amour que de l'aimer avec sa pensée, de l'aimer avec, finalement, ce qui fait le propre de l'homme par rapport aux animaux, entre autres, cette possibilité de raisonner d'une manière logique, cette possibilité de s'élever, n'est-ce pas, dans la connaissance des choses, à mettre de l'ordre dans un ensemble de concepts, dans un ensemble de vérités qui sont à sa disposition, ou bien que le Seigneur lui révèle. Et ce faisant, il est aussi à l'image de Dieu. La création, par exemple, telle qu'elle apparaît dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est surtout une mise en ordre. Dieu sépare. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare les eaux qui sont en haut des eaux qui sont en bas. Il sépare la terre d'avec le sec. Il fait germer les végétaux qui sont aussi selon leur espèce. Il y a tout un ordre logique dans lequel Dieu intervient et qui est précisément cette organisation d'un chaos qui existait auparavant. C'est ça le propre de la création de Dieu. Et puis ensuite, n'est-ce pas, il y en a de même pour les animaux et enfin de l'homme. Ensuite, il fait venir les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. C'est-à-dire pour qu'il répète finalement cette même mise en ordre que Dieu avait commencé, qu'il entre dans le travail de création de Dieu. Et c'est par son intelligence aussi que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'attitude qu'on trouve dans certains milieux évangéliques de mépriser l'intelligence, de mépriser la réflexion logique est finalement aux antipodes de la vision biblique. Et la cause de tant et tant de difficultés et de désordres tels que nous les trouvons aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Maintenant, si nous venons au Nouveau Testament, nous constatons que, eh bien, il y a la même démarche qui nous est proposée. Notamment lorsque nous lisions Éphésiens 4, où l'apôtre parle des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., que Dieu établit pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Mais c'est la suite qui est particulièrement intéressante. « Afin, dit l'apôtre, que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la ruse, par la tromperie des hommes, par les moyens de séduction. Mais afin que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards à l'image de celui qui est le chef Christ. » Et là, je crois qu'il y a une chose tout à fait intéressante, parce que s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas une solide doctrine qui est donnée au peuple de Dieu, eh bien ce dernier sera semblable à des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la ruse, par la tromperie des hommes et par les moyens de séduction. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans toutes sortes de milieux chrétiens. Parce qu'on a une approche superficielle de la doctrine, une approche superficielle tout simplement parce que une telle étude de la doctrine implique un effort et nous sommes au siècle du refus de tout type d'effort, de la superficialité, et beaucoup de chrétiens se contentent d'une connaissance superficielle. Et par conséquent, ne sont pas armés face à ces tromperies des hommes, les moyens de séduction dont nous parle l'apôtre. Et puis ensuite, il continue. Quand il nous parle de Jésus-Christ qui est le chef, c'est de lui et par lui que tout l'édifice bien coordonné formant un solide assemblage s'édifie lui-même selon la force qu'il tire de chacune de ses parties et s'édifie dans l'amour. Finalement, la doctrine apparaît comme la charpente, la colonne vertébrale, le squelette de l'édifice qu'est l'Église. Bien entendu, un squelette n'est pas tout le corps, c'est sûr. S'il n'y a que cela, alors nous serons dans une réalité morte. Mais un corps qui serait dépourvu de squelette ferait qu'un tel corps serait une espèce de mollusque. Et finalement, c'est à cela que ressemblent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. N'est-ce pas ? Alors, bien entendu, à partir de là, quand l'édifice est bien charpenté, nous dit l'apôtre, quand il forme un solide assemblage, alors il peut s'édifier dans l'amour. Et c'est cela le but, bien entendu. Le but, dira l'apôtre Paul, du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur. Mais le commandement est indispensable pour qu'on trouve cette charité venant d'un cœur pur. Il y a aussi une autre raison pour laquelle il convient d'étudier la doctrine, c'est que finalement, c'est au travers de la révélation de la Bible que nous avons la réponse aux questions que tout homme est amené à se poser tôt ou tard, croyant ou non. Et finalement, que les incroyants posent aux croyants : qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Et où je vais ? Pourquoi je suis sur la terre ? Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il une destinée éternelle ? Ce sont des questions que l'homme se pose. Et seul un enseignement logique peut répondre à cette quête normale et légitime de l'homme. Par conséquent, une doctrine solide peut seule nous permettre, dans un temps de doute et de confusion comme celui-ci, de répondre aussi aux besoins de ceux qui nous entourent. Et nous dirons que, à ce moment-là, la doctrine aussi est nécessaire à l'évangélisation. Il y a parfois, n'est-ce pas, au niveau des évangélistes, ou au niveau de ceux qui s'occupent d'évangélisation, l'idée que du moment qu'on connaît tout simplement la doctrine du salut, le salut en 4 points ou le salut en 7 points, n'est-ce pas, bon, ça suffit. On a un bagage qui permet d'aller, de faire le tour du monde, n'est-ce pas, en prêchant l'évangile à toute créature, à toute langue. Bon, c'est un peu léger. Et on se rend très vite compte que l'évangile en 4 ou en 7 points, ou même en 10 points, n'est-ce pas, le salut par grâce par Jésus-Christ, bon, c'est vrai, c'est la base, c'est fondamental, c'est sûr. Mais que pour faire face aux interrogations que les hommes de ce temps se posent, notamment dans ce monde scientifique, dans ce monde où il y a un certain nombre de questions nouvelles qui se posent à l'homme du XXe siècle, eh bien, pour pouvoir défendre la foi chrétienne et propager la foi chrétienne, il est aussi nécessaire que l'évangélisation soit sous-tendue par une solide doctrine dont l'on est absolument sûr. Lorsque l'apôtre Luc écrivait à... Ah non, comment ça s'appelait ? Il s'appelait son protecteur, là, j'oublie son nom échappe.
Théophile.
Il lui disait ceci: « Je t'écris ces choses, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Il n'est pas question pour nous, si nous voulons vraiment être utiles au Seigneur, de répéter comme des perroquets un catéchisme appris par cœur. Mais il s'agit de connaître, comme le dit ici Luc à Théophile, la certitude des enseignements que nous avons reçus. Pour pouvoir dire aussi, comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Pour que nous ayons des certitudes. Et pour que nous ayons de telles certitudes, il faut certes que nous les ayons vécues, que nous ayons fait des expériences, et dans un instant nous allons venir justement entre la relation entre expérience et doctrine, mais il faut aussi que nous ayons réfléchi. Et le peuple de Dieu périt aujourd'hui par manque de réflexion. Manque de réflexion sur lui-même, manque de réflexion sur le monde qui l'entoure, et manque de réflexion sur les réponses que Dieu donne aux questions que pose le monde moderne, que posent les hommes de ce temps. Souvent, on se contente de répéter ce qu'ont dit les réformateurs au XVIe siècle, etc., etc. Bon, c'est vrai, ils ont découvert des choses fondamentales et importantes, mais il nous faut aujourd'hui aussi, à ce niveau-là, aller plus loin. Alors, la doctrine, eh bien, je crois qu'il faut aussi nous dire qu'il nous faut entrer dans une expérience avec Dieu pour pouvoir l'aborder. Et c'est ici que nous abordons justement cette question fondamentale des relations entre doctrine et expérience. On n'aborde pas l'étude des choses de Dieu comme on aborde l'étude des mathématiques ou de la botanique ou d'une science, quelle qu'elle soit. À la limite, les sciences, que ce soit les sciences physiques, les sciences naturelles, les sciences humaines, sont neutres. Un athée ou un croyant arrivera aux mêmes conclusions s'il applique rigoureusement les mêmes principes. 2 et 2 font 4 pour l'athée comme pour le croyant. Un homme, qui vivait il y a 3 ou 4 siècles, et l'homme qui vivra, si le Seigneur ne revient pas dans 3 ou 4 siècles, arriveront aussi en appliquant les mêmes principes aux mêmes conclusions. Un homme qui est un homme immoral ou un homme qui est un saint arriveront aussi dans ce domaine aux mêmes conclusions. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il en va différemment. Dieu n'est pas un objet de science. Et c'est pourquoi il n'existe pas de science théologique, au sens où on l'entend aujourd'hui. On ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette, le disséquer, l'analyser, comme on le ferait avec, un être quelconque, un animal, tout ce qu'on voudra. Dieu n'est pas l'objet d'une science. Dieu n'est connu que dans la mesure où il se révèle. Et Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Et Dieu ne se révèle pas n'importe comment. Il y a, pour connaître la révélation de Dieu, un certain nombre de conditions qui sont indispensables au préalable. L'intelligence humaine, à ce niveau-là, est insuffisante pour pouvoir entrer dans cette connaissance des choses de Dieu. Plus encore, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire que l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Par conséquent, il ne pourra jamais les atteindre. Et ce n'est pas parce qu'un homme sera intelligent, sorti de Polytechnique ou de l'ENA ou tout ce qu'on voudra, qu'il sera plus qualifié qu'un autre pour comprendre les choses de Dieu. Il est nécessaire au préalable que cet homme ait fait une expérience profonde avec le Seigneur. Maintenant, la révélation de Dieu, c'est aussi une réalité objective. Et là, justement, il faut éviter l'erreur que on trouve dans beaucoup de milieux évangéliques, notamment de milieux charismatiques, faire de la vérité de Dieu tout simplement l'objet d'une révélation ou d'une expérience subjective. La révélation de Dieu est une réalité objective. Dieu, et c'est tout le témoignage de la Bible, a parlé. L'Éternel parla à Moïse et dit. Après avoir parlé de plusieurs manières, dit l'Épître aux Hébreux, au Père, puis aux prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Dieu a parlé. Dieu a parlé dans des circonstances historiques précises. Dieu a parlé dans le temps. Et, n'est-ce pas, cette parole de Dieu, ces paroles de Dieu, ont été reçues, n'est-ce pas, par ceux qui les ont entendues comme quelque chose de clair, de précis, d'objectif. Et finalement, quand nous réfléchissons à la nature de Dieu, nous nous rendons compte que c'est effectivement quelque chose qui est logique. Dieu, et c'était la grande découverte des rabbins juifs, des savants juifs, qu'ils appelaient Dieu l'Ein Sof, celui qui est sans fin, c'est-à-dire, ou encore le Dieu caché. Nous trouvons ça dans la prière de Salomon. Tu es au Seigneur un Dieu qui te cache. Dieu, encore une fois, ne peut pas être atteint par l'intelligence humaine. Et Dieu, pour ce faire, a besoin de se révéler. Et comment Dieu peut-il se révéler, si ce n'est par une parole? Il est logique que Dieu parle. Dieu n'est pas, comme disait Pascal, qu'il avait fort bien réalisé dans l'expérience qui avait été la sienne avec Dieu, Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. C'est-à-dire, Dieu n'est pas cette espèce de Deus ex machina, cette espèce de cause première de tout, qui met en branle le processus du Big Bang du départ, et puis ensuite qui laisse les choses se dérouler selon le principe de causalité. Ce n'est pas la cause première, le grand horloger dont parlait Voltaire, auquel finalement on remonte par déduction, et auquel l'homme moderne, au nom de la science, au nom de la philosophie, interdit d'intervenir dans l'histoire, interdit de parler. Si vraiment Dieu est Dieu, c'est-à-dire cet être tout-puissant, quoi de plus logique qu'il cherche à entrer en contact avec sa créature par la parole. Et deuxièmement, nous dirions que cette parole doit être une parole écrite. Une parole écrite tout simplement pour qu'elle se conserve. Le propre de la parole, c'est d'être éphémère. Les paroles s'envolent, dit-on. Il était donc parfaitement normal et parfaitement logique que cette révélation de Dieu, eh bien Dieu fasse en sorte qu'elle soit mise par écrit, qu'elle soit recueillie dans un livre, ce livre qui est la Bible. Et c'est dans cela que nous disions tout à l'heure que la Bible, ou plutôt la révélation de Dieu, est une réalité objective. Est une réalité objective parce que justement c'est une révélation écrite, c'est un texte écrit, qui est la même pour l'homme de tous les lieux et de l'homme de tous les temps. Elle est la même pour le croyant comme pour l'incroyant. Elle est la même pour l'homme du 1er siècle que pour l'homme du 20e siècle. Elle est la même pour le débauché que pour le saint. N'est-ce pas ? Mais où, alors, intervient la question de l'expérience ? C'est sur la manière de l'appréhender. Paul nous parle de... Réfléchis sur le mystère d'Israël en particulier, il parle d'un voile qui est sur les yeux du peuple d'Israël, du moins dans sa majorité, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Il y a un voile. C'est vrai pour Israël, bien sûr, mais c'est vrai aussi pour l'incroyant. Il verra, effectivement, il lira ce livre. Il le lira comme une réalité, effectivement, objective. Mais il n'entrera pas dans la compréhension du mystère. Il n'entendra pas, au travers de la lecture de ce livre, la voix de Dieu qui lui parle. Et ce livre, comme le dit le prophète Ésaïe, sera pour lui comme un livre fermé. Un livre qui restera incompréhensible dans sa dimension spirituelle. Et c'est en cela que s'il est vrai que la révélation de Dieu est d'abord une révélation objective, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir entrer dans son mystère, il faut une expérience avec le Seigneur. Il faut une rencontre avec le Seigneur, au travers de laquelle le voile qui se trouve sur le cœur de chaque homme naturel est ôté. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, elles sont une folie pour lui. Et ça, c'est fondamental. Il faut toujours revenir à ce texte-là. Elles sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il faut d'abord avoir fait une démarche spirituelle. La Bible nous parle de la possibilité d'une telle démarche. La Bible nous en montre même le chemin. Et la Bible contient une promesse en disant « Pour celui qui entreprendra cette démarche, eh bien, il y aura une révélation qui sera donnée. Il y aura un voile qui sera ôté. Il y a une compréhension nouvelle qui lui sera donnée. » La Bible évoque la possibilité d'une expérience, ou même d'expérience au pluriel avec Dieu, pour celui qui se conforme à ses exigences. Et lorsqu'effectivement nous prenons au sérieux ce que la Bible dit, en disant, eh bien, je vais voir si effectivement l'expérience qui m'est proposée est à ma portée, alors nous nous rendons compte que la Bible est vraie. Pourquoi ? Parce que nous faisons l'expérience qui est conforme à ce qu'elle décrit. Et voilà précisément ce qui doit être toujours notre démarche quand nous faisons de la doctrine. La doctrine, ce n'est pas tout simplement une construction intellectuelle pour le plaisir de raisonner en chambre. Mais il s'agit d'une démarche intellectuelle et logique qui nous conduit à une rencontre plus profonde avec le Seigneur, qui a pour but de nous conduire à une rencontre plus profonde avec le Seigneur, et une rencontre de type spirituel, une rencontre de type expérimental. Et si l'expérience que nous faisons est conforme à ce que la Bible décrit, alors nous pourrons dire, à ce moment-là, nous sommes sur un terrain solide. Et précisément, une expérience faite au terme d'une démarche de ce type va soudain éclairer pour nous un texte ou des textes qui jusqu'alors étaient obscurs. Et soudain, la lumière va nous être donnée. Je prendrai simplement un exemple qui est tout à fait caractéristique de cette démarche. C'est la redécouverte du baptême du Saint-Esprit au début de ce siècle. Précisément, par ce moyen-là. C'est tout à fait intéressant de constater que dans l'histoire de l'Église, depuis le premier siècle, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, alors même que l'Église officielle avait oublié la doctrine du baptême du Saint-Esprit et avait construit des théologies de remplacement pour expliquer pourquoi, aujourd'hui, de leur temps, on n'expérimentait plus le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels qui l'accompagnaient. Bon, on trouve ça encore dans les milieux évangéliques aujourd'hui. C'était bon pour le temps des apôtres, parce que l'Église n'était pas encore fondée, mais, n'est-ce pas, aujourd'hui que l'Église est fondée, on n'a plus besoin de ces choses-là. Des théologies de remplacement, des théologies du manque. N'est-ce pas ? Et au début de notre siècle, eh bien, une démarche inverse a été faite. Jusqu'alors, spontanément, des hommes et des femmes, sans l'avoir cherché, simplement parce qu'ils avaient une communion particulière avec Dieu, faisaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ça leur semblait étrange. Alors ils se contentaient de garder cette expérience pour eux, si bien que, en général, ça ne dépassait pas le cadre de ces quelques-uns qui, dans cette période-là, faisaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit, sans savoir que c'était l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Au début de notre siècle, un groupe précisément d'étudiants se sont rendus compte que leur vie spirituelle était pauvre par rapport à la vie spirituelle des premiers chrétiens tels qu'on le trouve décrit dans le livre des Actes en particulier. Et ils se sont demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il leur manquait. Et ils se sont décidés à chercher la face de Dieu dans la prière et dans l'étude jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui était précisément le secret du dynamisme et de la force de l'Église primitive. Et jusqu'à ensuite ce qu'ils aient reçu eux. Ils étaient profondément convaincus que la parole de Dieu ne change pas, que le Seigneur ne change pas, et qu'ils pouvaient par conséquent trouver, eux, pour eux-mêmes aussi, ce qui était la force de l'Église primitive. Et la découverte s'est faite par étapes au travers de l'étude de la parole de Dieu. Tout d'abord, la conclusion était que ce qui faisait le dynamisme des apôtres, c'était la promesse que Jésus leur avait faite avant son ascension, n'est-ce pas ? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et auparavant, Jésus leur avait dit, ne faites rien. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance d'en haut. C'est donc que c'était vraiment pour eux le tournant, c'était vraiment ceux qui allaient leur donner la force, le dynamisme, qui allait rendre leur témoignage efficace. Bon, le Saint-Esprit, bien, c'est sûr. Chacun de ses étudiants était convaincu de l'avoir reçu au moment où il s'était converti, au moment de la nouvelle naissance. Les textes le disent d'une manière très claire. Mais c'est là qu'ils se sont rendus compte que s'il est vrai que le Saint-Esprit descendait dans le cœur du croyant au moment où il se tournait vers Jésus-Christ dans la foi, pour naître de nouveau, il semblait, dans le livre des Actes, qu'il y avait une deuxième expérience du Saint-Esprit qui était faite, non plus cette fois-ci pour une régénération, mais pour un revêtement de puissance, et que la Bible assimilait cela au baptême du Saint-Esprit. Et là, c'était la deuxième étape. Troisième étape, comment reçoit-on ce baptême du Saint-Esprit ? Par quoi se manifeste-t-il ? Et après une étude très serrée du livre des Actes, des Épîtres, etc., ces étudiants sont arrivés à la conclusion que le signe normal de cette expérience était le parler en langue. Voilà, ils étaient arrivés à cette conclusion-là. Ils auraient pu rester là. Ils auraient pu écrire une thèse magnifique sur la chose en disant le baptême du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Seulement, leur but n'était pas simplement d'écrire une thèse sur l'Église primitive. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était avoir la puissance qu'avaient ces gens-là. Et c'est alors qu'une des jeunes étudiantes est venue voir le pasteur Parham, qui avait dirigé tout ce travail. Il lui a dit, ben maintenant que nous sommes tous d'accord sur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, bibliquement, ben priez pour moi, pour que je sois le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Finalement, le pasteur Parham a quelque peu hésité, s'est mis à trembler, disant, ben, si je me trompe, si c'est pas ça, si se passe rien, si tout l'ici, tout ce que Satan peut mettre dans l'esprit de l'homme dans un moment pareil. Mais voilà, cette jeune fille était agenouillée là et elle attendait qu'il lui impose les mains. Alors en tremblant, il lui a imposé les mains et il a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur elle. Effectivement, quelques instants plus tard, le Saint-Esprit a rempli cette jeune fille qui s'est mise à parler en langue. Et dans les jours qui ont suivi, chacun de ses étudiants a fait la même expérience, qui était conforme à ce que la Bible décrivait. Et c'est ça qui a été le point de départ du mouvement de Pentecôte, c'est que la démarche était inverse de celle qui s'était passée dans les siècles précédents. Dans les siècles précédents, comme on dit tout à l'heure, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, faisaient l'expérience, mais ils n'arrivaient pas à formuler la doctrine de l'expérience qu'ils avaient faite. Ils faisaient l'expérience sans savoir à quoi elle correspondait bibliquement. Alors, eh bien, il n'y avait pas de diffusion de cette expérience. Ça restait limité. Mais là, au début du siècle, la démarche était inverse. On a commencé par redécouvrir la doctrine de la chose, et la doctrine a conduit à l'expérience. Et quand on s'est rendu compte que l'expérience était conforme à ce qui était écrit, on s'est dit, bon, on peut répandre maintenant cette doctrine. On peut la prêcher pour que d'autres fassent aussi la même expérience. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, des millions de gens de par le monde ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il y a plus de gens baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui au XXe siècle qu'il n'y en a eu pendant les 20 siècles d'histoire de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que cette expérience était conforme à la doctrine biblique. Avec vous ? Et si aujourd'hui il y a, dans les milieux charismatiques, confusion de plus en plus, et qu'on voit des choses étranges dans le baptême du Saint-Esprit, des gens qui se disent baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils ne le sont pas, des gens qui prophétisent au nom de Marie ou au nom de quelque saint quelconque, n'est-ce pas ? C'est précisément parce que l'on ne veut plus, justement, mesurer les expériences faites aux critères de la parole de Dieu. On ne veut plus de la doctrine, du moment que nous avons les expériences, ça suffit. Et je prendrai un deuxième exemple, justement, pour montrer l'importance d'étudier la doctrine. C'est, il y a quelques années de cela, dans une rencontre de pasteurs, je voyais des frères qui étaient en train de discuter d'une manière animée dans un coin, je m'approche, et j'entends avec beaucoup de surprise que ces frères discutaient justement d'exorcisme, et notamment d'exorciser des chrétiens possédés. Je dis, ça, qu'est-ce que c'est ? Mais ça ne va pas, un chrétien possédé, ce n'est pas possible. C'est une contradiction dans les termes. S'ils sont possédés, ça veut dire qu'ils sont habités, ils sont contrôlés, ils sont sous l'influence de l'ennemi de nos âmes, d'un esprit mauvais, d'un esprit diabolique. Par conséquent, ça veut dire qu'ils ne sont pas convertis. Par conséquent, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et par conséquent, s'ils sont sauvés, c'est que l'Esprit du Seigneur habite en eux. Comment l'Esprit de Dieu pourrait-il cohabiter avec l'Esprit de Satan ? Vous voyez, l'Esprit du Seigneur faire une petite place à l'Esprit de Satan, comme ça ? Ah oui, je sais bien, bibliquement, me répondait ce frère, ça colle pas, mais l'expérience nous montre que c'est comme ça, pourtant qu'il y a plein de chrétiens qui sont possédés. J'aurais dû se demander si c'était pas un petit peu son expérience qui était à revoir, si peut-être ces fameux chrétiens possédés, entre guillemets, étaient vraiment chrétiens, si ce n'étaient pas des gens qu'on avait baptisés comme ça alors qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés, qu'ils n'avaient pas vraiment fait une expérience avec le Seigneur. Mais non ! Alors, on mettait de côté la parole de Dieu parce qu'il y avait soi-disant des expériences qui infirmaient la parole de Dieu. Et c'est là que nous sommes sur un terrain extrêmement dangereux. Quand on ne veut plus, justement, s'attacher à la saine doctrine. Et quand nous lisons les lettres de Paul en particulier, qu'on lise par exemple les épîtres pastorales à Timothée et à Tite, nous nous rendons compte de l'importance que Paul attache à la saine doctrine. Par exemple, lorsqu'il parle des anciens, il dit qu'il faut que les anciens soient attachés à la saine doctrine, qu'ils soient propres à redresser avec douceur les contradicteurs. Il y a de faux docteurs qui s'introduisent, dit Paul, dans les maisons, n'est-ce pas, auxquelles il faut fermer la bouche. Et nous nous rendons compte, quand nous lisons les lettres de Paul en particulier, que l'erreur doctrinale professée avec persévérance par quelqu'un, qui a pourtant été mis en garde, est un cas d'excommunication. Exactement comme le serait, par exemple, une vie dissolue et immorale. Or, aujourd'hui, dans la plupart des églises, D'ailleurs, il y a de moins en moins d'excommunication, entre guillemets, je ne parle pas le mot parce que ça fait penser à l'Inquisition, mais en tout cas de discipline telle que le Seigneur le conçoit et que la parole de Dieu le déclare, même pour des cas d'immoralité patente, mais à plus forte raison pour des cas de déraillement doctrinaux. Nous sommes au contraire au siècle du pluralisme, où toutes les opinions ont droit de citer, etc. Alors vous avez des églises tout à fait bâties de briques et de brocs, n'est-ce pas ? Vous avez des gens qui n'hésiteront pas à affirmer le contraire. Il y a eu, je me souviens, il y a quelques années encore, une grande discussion dans les églises charismatiques au sujet du baptême. Baptême au nom de Jésus ou baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors il y avait ceux qui disaient qu'il fallait que ceux qui avaient été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soient rebaptisés au nom de Jésus. Vous aviez des foules entières dans les églises qui étaient rebaptisées un beau soir, n'est-ce pas, au nom de Jésus, etc. Bon, alors, un même brave pasteur qui disait, moi j'ai résolu le problème, très simplement, quand je baptise les gens, je baptise tantôt l'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis tantôt l'autre au nom de Jésus, comme ça, tout le monde est content. Ça montre justement l'importance que ces gens-là attachaient à la doctrine. Mais une fausse doctrine pertinemment professée est un cas d'excommunication pour l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de grave. Parce qu'une fausse doctrine va entraîner un comportement faux automatiquement au bout d'un temps. Et va ouvrir une porte pour une déviation non seulement au point de vue de la doctrine, mais au point de vue du comportement, au point de vue des mœurs, au point de vue de la moralité, au point de vue de tout cela, au point de vue de la sainteté. Encore une fois, un saint ne peut pas être ignorant. Et un ignorant ne sera jamais un saint. Ce n'est pas possible. Il faut la connaissance. Et Pierre disait à ceux auxquels il écrivait, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, quelles sont les conditions ? Eh bien, justement, c'est d'avoir un cœur pur, d'abord. Il est certain que le péché dans le cœur de celui qui s'approche de Dieu l'amènera à des déviations doctrinales. Et c'est pourquoi, justement, si erreurs doctrinales et conduites scandaleuses sont liées dans les épîtres de Paul. Parce que souvent, justement, la profession d'une erreur doctrinale dénote un cœur double, un cœur qui n'est pas droit. Parce que la vérité est une, et lorsque nous approchons du Seigneur, le Seigneur nous éclaire. Et précisément, quelqu'un professera une fausse doctrine parce que soudain, ayant été mis en face de la vérité, cette vérité le remet en question et il ne veut pas être remis en question. Alors, pour expliquer sa désobéissance, il va construire une fausse doctrine. N'est-ce pas ? Et souvent, justement, la profession d'une fausse doctrine est l'explication et la manifestation d'un péché. Paul dit cela aussi lorsqu'il s'adresse à Timothée, disant qu'il y a les péchés de certains hommes qui sont manifestes avant, tout immédiatement, puis il y a ceux qui se dévoilent dans le temps et qui sont cachés justement par toute une dialectique, par tout un raisonnement, etc., etc. Et ce n'est que plus tard qu'on se rend compte, n'est-ce pas, que cet homme-là professait cette doctrine parce que justement, il y avait dans sa vie quelque chose qu'il ne voulait pas mettre en ordre. Il y a fausse doctrine également lorsque quelqu'un s'abandonne, dit l'apôtre Paul, à son orgueil. L'orgueil, évidemment, est aussi une cause terrible de déviation doctrinale. Et c'est pourquoi celui qui s'approche de l'étude de la parole de Dieu doit le faire avec humilité. D'abord, savoir que nous n'avons pas la connaissance de toute la vérité. Nous ne connaîtrons jamais, de toute façon, toute la vérité parce que Dieu restera toujours pour nous le Dieu caché, quoi qu'il en soit. Nous conduisant dans une révélation de plus en plus grande de sa personne, mais que nous aurons toujours à découvrir des choses nouvelles avec lui. Et finalement, plus nous connaîtrons comme il faut connaître, et plus nous nous rendrons compte que nous connaissons si peu. Paul s'en prenait aux Corinthiens, justement, pour leur connaissance. Il disait « la connaissance enfle, mais la charité édifie ». Ils pensaient avoir une connaissance des choses de Dieu, mais c'était l'orgueil. Et la connaissance sans humilité, va entraîner précisément des exagérations dans certains domaines de la doctrine, va conduire un certain nombre de gens à avoir un certain nombre de doctrines favorites, soit parce que ça correspond à son tempérament. Je pense par exemple à la question de la guérison divine. Lorsque la guérison divine a été redécouverte dans le cadre du mouvement de Pentecôte au début du siècle, forcément, ça a été, pour beaucoup de pentecôtistes, de charismatiques, une des doctrines favorites. Bon, penser, avoir la certitude, avoir en tout cas l'espérance que l'on peut être guéri de ces maladies, même les plus graves. Quand on voit les fortunes qui se dépensent quotidiennement, n'est-ce pas, par des foules de gens pour être guéris, auprès des médecins et des charlatans aussi, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Voilà que soudain, n'est-ce pas, on découvre que Jésus est celui qui est guéri. Alors, effectivement, c'était une des doctrines favorites. Et parce que ces gens-là, n'est-ce pas, affectionnaient particulièrement cette doctrine, c'était celle-là qu'ils mettaient en avant. Ils prêchaient la guérison divine. Aujourd'hui, dans le mouvement de Pentecôte français, il y a des gens qui prêchent la guérison divine. Ils n'ont jamais réfléchi un seul instant que nous n'avions absolument aucun exemple dans la parole de Dieu d'une prédication de la guérison divine. On prêchait Jésus-Christ, on prêchait le salut qui était en Jésus-Christ, on ne prêchait pas la guérison divine. Quand ils avaient prêché Jésus-Christ, les apôtres imposaient les mains aux malades pour que ces derniers soient guéris. Ils pratiquaient la guérison divine, ils ne prêchaient pas la guérison divine. Voilà un exemple d'une amorce de déviation doctrinale, parce qu'on a privilégié une doctrine. Et ce n'est pas sans raison qu'un prêtre catholique qui s'occupait des sectes, quand il avait parlé des pentecôtistes, avait titré ainsi « Ils ont fait de Dieu un guérisseur ». C'est vrai, Dieu n'est pas un guérisseur. Jésus guérit, mais pas comme un guérisseur. Eh bien voilà ce qui est une amorce de déviation doctrinale. Parce que ces gens-là ont privilégié une doctrine qui leur plaisait. Donald G. a bien dénoncé ça, par exemple, dans son petit livre que je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, « J'ai laissé trop fille malade », où il montre, que ma foi, la perspective de ne pas souffrir, d'échapper à la souffrance, n'est-ce pas, par le phénomène de la guérison divine, évidemment, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup. Alors, on avait, dans certains évangélistes pentecôtistes, on était jusqu'à affirmer que la guérison divine était quelque chose d'absolu. C'était quelque chose d'aussi absolu que le salut. Si quelqu'un croyait en Jésus-Christ pour son salut, eh bien, il pouvait aussi croire pour sa guérison, et il devait être guéri de la même manière qu'il était sauvé. Et s'il n'était pas guéri, c'est qu'il n'était pas sauvé non plus. Et vous voyez les drames que ça provoquait dans la pratique, une telle doctrine. Les malades qui avaient mis leur espérance en Jésus-Christ pour le salut, qui avaient mis leur vie en règle, qui s'étaient vraiment repentis de leurs péchés, et ensuite qui étaient venus pour demander au Seigneur la guérison de leur corps, que le Seigneur ne leur avait pas accordé pour des raisons qui nous échappent, des raisons qui sont celles du Seigneur, et qui soudain étaient arrivés à douter de leur salut. Ou bien, dans d'autres cas, et j'ai connu ça dans ma propre famille, un grand-oncle, n'est-ce pas, qui un jour s'était mis à souffrir de maux de ventre, n'est-ce pas, de plus en plus violents, et puis qui n'osait pas aller consulter un médecin, parce que consulter un médecin, c'était mettre en doute que Jésus-Christ pouvait le guérir. Alors on lui avait imposé les mains plusieurs fois, puis malgré les impositions des mains répétées, il continuait à avoir mal au ventre jusqu'au jour où mon père l'avait fait hospitaliser en vitesse. Il avait une appendicite qui était en train de dégénérer en péritonite, etc. Il avait fallu l'opérer d'urgence, il avait fallu y rester entre les mains des chirurgiens à ce moment-là. Et vous imaginez le scandale si cet homme était mort pour une vulgaire appendicite, banale appendicite, qui n'avait pas été opérée au nom, n'est-ce pas, de la guérison divine poussée jusqu'à son paroxysme. Alors, c'est important d'étudier la doctrine. Ça a des incidences dans la pratique, beaucoup plus grandes qu'on ne le croit. C'est pas du tout un travail pour gens qui sont là, théologiens désœuvrés ou autres, mais c'est quelque chose qui intéresse vraiment les domaines précis de la vie. Donc, humilité. Humilité également pour une autre raison. C'est que la volonté de Dieu, c'est que le chrétien n'est jamais un homme seul. Souvenez-vous que Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Et N'est-ce pas ? On parlera, par exemple, dans le domaine de la théologie de Barthes, la théologie de Bultmann, la théologie de tel ou de tel. Bon, bibliquement, ça n'existe pas. Un homme ne va pas faire une synthèse de toute la vérité, ou de toutes les vérités bibliques. Il a besoin des autres. Il a besoin de comparer ce que le Seigneur lui a montré dans sa parole avec ce qu'il a montré aux autres, pour voir si ça concorde. Si nous avons les mêmes prémices de départ, si nous avons la même parole de Dieu, si nous avons les mêmes dispositions de cœur, nous arriverons aux mêmes conclusions, aux mêmes résultats, sur l'essentiel en tout cas. Et là se pose un problème, justement. Comment se fait-il ? Et c'est toujours la grande objection qu'on trouve chez les incroyants. Comment se fait-il alors qu'il y ait tant de dénominations, que sur justement des questions fondamentales de la foi chrétienne, il y ait tant d'opinions divergentes ? Eh bien, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Parce qu'encore une fois, la vérité biblique, la vérité de Dieu n'est pas neutre. Elle engage l'homme. Et quand l'homme refuse d'être remis en question par cette vérité de Dieu, il remet en question la vérité de Dieu et il l'accommode à sa propre vérité. Et précisément, toutes les églises qui sont fondées sur des déviations, catholicisme ou choses semblables, n'est-ce pas, viennent de ce qu'il y a eu en son sein des hommes qui se sont crispés contre la vérité de Dieu, pour des raisons personnelles, parce que leur cœur n'était pas droit, parce qu'il y avait le péché dans leur cœur, et qu'ils ont voulu justifier leur manière erronée de vivre, n'est-ce pas, en leur désir, conscience ou inconscient, de puissance, de domination, leur orgueil. Ils ont voulu le justifier, et ils ont construit des systèmes doctrinaux à ce niveau-là. Il y a eu aussi une part d'ignorance, très souvent. Je pense aux réformateurs, par exemple, qui ont entrepris un gros travail de redressement, mais qui n'ont pas redécouvert toute la vérité. D'où justement l'humilité qui était la leur quand ils disaient « Ecclesia reformata, semper reformanda », l'Église réformée doit toujours être réformée. Il faut continuer l'œuvre de la réforme. Ce n'est pas un processus qui est achevé. Et c'est toujours aussi ce qui se passe dans nos propres vies. Le Seigneur nous conduit, là aussi, de révélation en révélation à ce niveau-là. Nous ne sommes pas arrivés. Alors aussi, l'humilité nous conduit à tenir compte du travail des autres, du travail de nos frères, mais aussi du travail des hommes de Dieu du passé. Nous n'allons pas tout redécouvrir à chaque génération. Mais nous devons tenir compte de ce que le Seigneur a révélé aux générations qui nous ont précédées. Partir de l'endroit où se sont arrêtés, non pas pour créer des nouvelles vérités, mais pour approfondir la vérité qui reste la même et qui est celle de Dieu. Et puis enfin, il faut une autre attitude aussi, c'est la foi. En fait, quand nous lisons l'Évangile, notamment l'Évangile de Jean, nous nous rendons compte que la foi, ce n'est pas du tout quelque chose de subjectif, comme on le croit aujourd'hui dans notre langue, à partir de toute, finalement, l'approche philosophique grecque, la foi du charbonnier ou le pari de Pascal, la foi qui est quelque chose de comme ça, une espèce de spéculation, saut dans le vide, ou comme le disait, alors là c'est une des plus grandes âneries que j'ai jamais entendues dans le monde chrétien, mais qu'on continue à répéter parfois, je crois parce que c'est absurde. Ah oui, il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit ça, parce que faut être très intelligent pour être très bête dans le domaine des choses de Dieu. Non, la foi, c'est une certitude. Je sais en qui j'ai cru. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Messie, que tu es le Fils du Dieu vivant, dit Pierre. Pourquoi ? Jésus dit, tu es heureux, fils de Simon. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas humainement que tu es arrivé à la connaissance de ces choses, mais par une révélation qui t'a été donnée par mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui a connu une révélation de Dieu, il sait aussi certainement, avec autant d'assurance que s'il avait vu de ses yeux vus, s'il avait touché, il sait. Celui qui a reçu une révélation de Dieu, et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est une parole de Dieu. C'est une parole qu'on a reçue de Dieu. Et l'on sait qu'elle est de Dieu. On le sait. Et alors, la foi devient à ce moment-là moyen de connaissance. Et c'est pourquoi, justement, l'homme psychique ne connaît pas les choses de Dieu, parce qu'il lui manque cet organe, et il lui manque ce sixième sens. On pourrait dire, d'une certaine manière, publiquement, la foi, c'est le sixième sens. Non pas les yeux de chair, mais c'est la vue intérieure. Et on a raison de parler des yeux de la foi. N'est-ce pas ? C'est pas une expression biblique, mais elle... C'est une image qui rend assez bien l'idée que la Bible se fait de la foi. Et c'est tout à fait différent de l'idée que se fait l'homme de la rue de la foi. Ça n'a rien à voir. La foi, c'est un moyen de connaissance. La foi, c'est quelque chose qui se développe, qui grandit dans l'intimité, dans la connaissance de Dieu, et qui nous permet de plus en plus d'appréhender la vérité de Dieu au fur et à mesure que cet organe se développe. De la même manière qu'un muscle, n'est-ce pas, est atrophié s'il n'est pas utilisé, eh bien, par contre, si on l'entraîne, eh bien, on peut devenir un champion, n'est-ce pas, de course, de saut, de tout ce qu'on voudra. Dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Si la foi n'est pas mise en œuvre, si la foi n'est pas utilisée justement pour s'approcher de Dieu, pour connaître Dieu, elle s'atrophie. Mais au contraire, si elle est mise en œuvre, alors elle va se développer et elle va nous permettre de pénétrer plus profondément dans cette connaissance de Dieu. Alors une connaissance qui ne sera plus, comment dirais-je, une connaissance humaine, qui ne sera plus le produit d'une intelligence humaine, mais qui sera celui d'une intelligence renouvelée, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, une intelligence qui nous permettra d'entrer dans une dimension nouvelle dans laquelle l'homme naturel n'entre pas. Et qui correspond à ce que Jésus dit à Nicodème, n'est-ce pas ? Si quelqu'un ne naît pas nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une véritable vision. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais s'il naît de nouveau, alors il y a tout un monde nouveau qui lui est accessible. Toute une connaissance nouvelle qui lui est accessible, qui ne lui aurait pas été autrement. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance est indispensable. Et c'est pourquoi les théologiens réformés, n'est-ce pas, qui ignorent ce qu'est la nouvelle naissance, eh bien, sont comme des aveugles qui tâtonnent. Quand on lit, par exemple, je prends le baptême du Saint-Esprit, parce que je lisais un livre récemment d'un grand théologien réformé, doyen de la faculté de Strasbourg, ce baptême du Saint-Esprit, eh bien, cet homme-là disserte pendant des pages et des pages, mais il dit rien sur le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il n'a rien à dire, et il n'a rien à dire, pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors il se rend bien compte qu'il y a quelque chose là, mais il ne sait pas comment l'atteindre. Parce qu'il y a comme un fossé qui est là, qui n'arrive pas à traverser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui fait cette expérience, c'est petit, comme ils disent, avec mépris, eh bien, soudain, on comprendra plus que cet homme-là, en tout cas sur ce chapitre-là. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il devra en rester là, ce petit en question, qui aura fait cette expérience de base. Mais à partir, justement, de cette connaissance nouvelle qui lui aura été donnée, il devra s'efforcer de progresser dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de ce que le Seigneur lui a donné. Et c'est ce qui permet, justement, à celui qui étudie de cette manière-là la doctrine chrétienne de parler avec autorité. Et c'est exactement à l'inverse des sciences humaines qui sont toujours relatives. Elles sont toujours remises en question. Vous savez, on travaille par hypothèse dans le domaine de la science. Et l'hypothèse d'aujourd'hui sera infirmée par les découvertes de demain. Mais en ce qui concerne justement l'homme de Dieu, lui, il parle avec autorité. Je sais en qui j'ai cru. Voilà comment sont les choses. Et c'est ce qui permet justement, ayant une doctrine saine, d'avoir aussi une grande assurance. Et c'est ce qui frappait, bien entendu, la manière de prêcher de Jésus. Il enseignait avec autorité, non pas avec, comme leurs scribes, dit l'Évangile, et aussi des apôtres. Quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils étaient étonnés. Car, disaient-ils, ces gens-là ne sont-ils pas galiléens ? Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils virent l'assurance de Pierre et Jean. L'assurance. L'assurance d'Étienne aussi devant le Sanhédrin. C'est ce qui était la marque de ces gens, n'est-ce pas ? Qui avaient des certitudes. Nous n'avons pas toute la connaissance. Nous n'avons pas réponse à tout. Mais nous avons des certitudes. La certitude des enseignements que tu as reçus. Bien, je vois que l'heure tourne vite.